Moi, je trouve que le niveau local est super enrichissant. Je trouve vraiment que c'est le plus beau niveau de pouvoir, parce que c'est le plus concret, c'est le plus proche des gens et des réalités. Le politique qui fait carrière toute sa vie et qui reste politicien toute sa vie, je pense que cette période est vraiment révolue. C'est vrai que rentrer dans l'intimité et de marier des citoyens, c'est quelque chose d'unique. Et c'est clair que ça, tu peux l'avoir dans aucune autre fonction, je pense.
Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Salut, c'est Lola. On se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards avec Alexandre, où l'on va parler de son rôle d'échevin à Woluwe-Saint-Pierre. En quoi consiste le rôle d'échevin? Comment se déroulent les projets réalisés lors d'un mandat? Quels sont les différents challenges que l'on rencontre en tant que politicien? Et enfin, quels sont les avantages à travailler dans ce milieu? Ce sont les sujets que nous allons aborder avec Alexandre dans cet épisode. Alexandre a terminé ses études en 2015, après avoir effectué son bachelier à Saint-Louis et ses deux masters au King's College de Londres et au Collège d'Europe. En 2017, il fonde Enerinvest et Sun4School, deux projets basés sur l'industrie solaire, avant de rejoindre en 2018 la commune de Woluwe-Saint-Pierre en tant qu'échevin. Si le secteur public et plus particulièrement la politique communale t'intéresse, alors cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Alexandre et bienvenue sur Best Regards. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience.
Avec plaisir.
Alors, avant de commencer, pourrais-tu nous faire un petit rappel en bref sur le système politique belge et les différents rôles qui existent au sein de la politique communale?
Oui, évidemment. On a trois niveaux de pouvoir. Donc on a le fédéral, le régional, le communal. Et en fait, pour faire le lien entre ces différents niveaux de pouvoir et pour vous illustrer un petit peu le niveau communal, les exemples parlent d'eux-mêmes. Au niveau législatif, on a trois niveaux, parlement fédéral, parlement régional, et au niveau communal, on a un petit peu la même chose, qu'on a le conseil communal, qui est en fait une sorte de parlement local où siègent des conseillers communaux. Et donc, au niveau exécutif, là, on a le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux, avec là, donc pour le gouvernement fédéral, un premier ministre. Pour les gouvernements régionaux, on a le ministre-président et ses ministres. Et au niveau communal, on a de nouveau quelque chose qui est assez similaire, puisqu'on a, au lieu d'un gouvernement, on a un collège des bourgmestres et échevins, avec à sa tête le bourgmestre, qui est une espèce de premier ministre, qui a ses compétences propres, et se charge de la cohésion de son gouvernement, de son collège ici. Et puis on a les échevins, qui sont des ministres locaux, qui disposent d'un portefeuille de compétences. Par exemple, on a l'échevin de l'environnement, l'échevin de l'enseignement, voilà.
Ok, merci pour cette explication super claire. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que tu es échevin à Woluwe-Saint-Pierre, mais peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste exactement?
Alors, oui, l'échevinat, en fait, comme je l'ai dit, c'est la gestion de plusieurs compétences. Donc, pour ma part, j'ai l'urbanisme, l'emploi, la mobilité, la transition numérique et le développement des smart cities. Et en fait, mon rôle, c'est de gérer les affaires liées à l'ensemble de ces compétences sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre. Et donc, c'est un territoire de 40 000 habitants. Donc, concrètement, en fait, en début de mandat, on établit une feuille de route, ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon local, la DPG ou la Déclaration de politique générale. Là-dedans, ça reprend les propositions des différentes fractions politiques qui sont membres de la majorité. Et cette DPG va guider notre action pendant les 6 années de la mandature. Et donc, très correctement, on va l'envoyer à tous les habitants au début de la mandature, en toute transparence, et 6 ans après, on va rendre des comptes. Et alors, on essaye de montrer qu'on a atteint au moins 3/4 de ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on se fixe, c'est d'essayer d'atteindre au moins 3/4 de ses objectifs. Alors, mon rôle, il est donc réparti entre, si vous voulez simplifier, la première partie, c'est de lancer toute une série de projets en lien avec nos engagements auprès des citoyens. Donc, par exemple, des projets de Smart City, des projets de mobilité douce en faveur du vélo. Et ici, en fait, c'est assez similaire à de la gestion de projet. Comme dans le privé, on a un budget, un planning, des work packages. Et là, c'est vrai que mon background commercial ou d'ingénieur de gestion est très utile. Clairement, on l'a un peu adapté au contexte local. Ici, on est dans une vieille maison communale avec des tableaux partout. Et c'est vrai qu'il y a un an, on a enlevé une des grandes fresques pour y rajouter un tableau agile qui nous permet tous les lundis matins de faire notre stand-up meeting, de bouger nos post-it. Voilà, on applique un petit peu aussi ces méthodologies de gestion de projet dans le contexte ici communal. Deuxièmement, c'est répondre aux demandes des citoyens. Typiquement, hein, on a pas mal de plaintes par rapport au stationnement sauvage de trottinettes électriques. Alors on essaie de trouver des éléments innovants. On a développé des drop zones hein, devant les passages pour piétons pour essayer de pousser les gens à stationner leur trottinette là. Et enfin, tout ce qui est traitement des affaires courantes. Donc là, je suis un urbaniste par exemple. C'est moi qui dois délivrer les permis et accompagner les habitants dans leur projet.
Ok, je vois. Donc, comme tu viens de le dire, tu es en charge de l'urbanisme et de la transition numérique. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet sur lequel tu as travaillé durant ton mandat?
Oui, à fond. On a un chouette projet. Le dernier projet qu'on a fait avant les vacances, c'était un projet de borne de chargement pour véhicules électriques intégrés dans des poteaux d'éclairage. Et donc, en fait, l'idée, c'est de profiter de la source de courant qui passe dans les poteaux d'éclairage pour y rajouter une borne et permettre aux riverains qui ne disposent pas de garage de venir recharger leur véhicule. C'est chouette. En tout cas, c'est une première en Belgique. Et la genèse du projet est aussi assez intéressante pour que vous puissiez comprendre un petit peu typiquement comment ça fonctionne un projet au niveau local. Ben voilà, concrètement, je suis dans les rues de Londres et je remarque qu'il y a ce genre de procédé, des bornes sur des poteaux d'éclairage en face de chez un ami. Et là, je me dis, ben, ok, c'est super innovant. On a un vrai problème en termes de déploiement de bornes de chargement à Bruxelles. Et donc voilà, on s'est lancé, on a remonté la piste, on a fait un appel d'offres européen. On a trouvé un fournisseur en Irlande et on a monté un partenariat avec le gestionnaire de réseau local, Sibelia, pour l'installation de ce genre de dispositif. Voilà, la petite anecdote aussi, c'est que donc on était en plein Brexit et les bornes ont eu un peu de mal à arriver. Donc du coup, on dit souvent qu'on est un petit peu bureaucrate dans les communes, mais là il y a un employé qui a pris le rostar, qui a embarqué ses bornes dans sa mallette et qui nous a déposé la valise à la gare du Midi, qui est remonté dans son train. Ça faisait très James Bond. Et donc voilà, quelques semaines après, on a pu progressivement déployer ses bornes sur Woluwe Saint-Pierre et on espère qu'après elles puissent être déployé dans le reste de Bruxelles et après dans le reste du pays. Et donc là aussi, c'est clairement ce background d'ingénieur commercial qui est très utile pour mettre en place ce genre de partenariat et pour bien comprendre la technologie, les enjeux techniques, de négocier évidemment avec les fournisseurs. Donc ça, c'est vachement utile.
Merci pour cette explication. C'est un projet super intéressant et prometteur en tout cas. Sinon, donc, on sait que tu es devenu le plus jeune échevin de Bruxelles. C'est donc rare de commencer aussitôt en politique? Comment est-ce que tu en es arrivé là?
C'est une bonne question. Ça a commencé quand j'avais 19 ans. Donc là, j'ai été faire une simulation aux Nations Unies, aux États-Unis, ce qu'on appelle le MUN. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est le Model of United Nations. Et j'ai été passionné par la chose publique et les défis publics, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, les Nations Unies, c'est cool, mais ce que je veux vraiment, c'est pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et que ça commence, en fait, par le local, le niveau local, qui est le niveau le plus concret, puisque tu vois directement les résultats de tes décisions sur le terrain, tu peux en discuter avec les gens, tu maries même les gens en tant qu'échevin, donc tu crées une vraie relation de proximité et c'est pour ça que le niveau local pour moi c'était le début d'un engagement pour la chose publique. Et donc je suis rentré, je me suis présenté aux élections communales en septembre, plutôt que partir en Interrail avec mes amis et à ma grande surprise, après un mois de porte-à-porte et des campagnes acharnées sur les marchés, j'ai été élu, je pense que j'avais 19 ans et je suis devenu effectivement le plus jeune conseiller communal à ce moment-là en Belgique. Et 6 ans après, à 26 ans, je suis devenu échevin.
Merci pour cette explication. La politique est parfois perçue comme un domaine assez sérieux, mais qu'est-ce qui t'amuse, toi, dans ce milieu?
Je trouve que le plus chouette, c'est vraiment concret. Donc, quand tu t'ouvres un journal, tu vois un peu les sujets d'actualité. Il y en a toujours un qui est en lien avec ton boulot ou avec ce que tu fais à la commune, de près ou de loin, les enjeux de mobilité, les enjeux technologiques, la politique de l'emploi. Et en fait, tu as une marge de manœuvre énorme au niveau local. C'est ça que j'adore. Et en fait, comme je l'ai dit aussi, au niveau de la proximité avec les gens, c'est vrai que rentrer dans l'intimité et de marier des citoyens, c'est quelque chose d'unique. Et c'est clair que ça, tu peux l'avoir dans aucune autre fonction, je pense.
Effectivement, il y a l'air d'avoir plein d'avantages à travailler dans ce milieu-là. Mais est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer les différents challenges que tu peux rencontrer en tant que politicien et les difficultés que tu as rencontrées en démarrant ce travail?
Il y a clairement beaucoup de stéréotypes hein, autour d'une fonction publique. C'est vrai, il ne faut pas le cacher, c'est des structures qui sont lourdes, des processus qui sont fastidieux avec les marchés publics, les passages dans les collèges, dans les conseils communaux. Donc les décisions sont parfois un petit peu plus difficiles à prendre et c'est clairement parfois moins dynamique que dans le privé. Mais encore, je trouve que moi j'ai travaillé pour une grosse entreprise, par exemple dans le secteur de l'énergie, et on retrouve aussi tous ces problèmes, lourdeurs parfois bureaucratiques. Ça se retrouve aussi dans le privé. Moi, je pense que ce qui est le plus difficile, de plus en plus difficile en fait, c'est que nos ressources financières et humaines sont de plus en plus limitées. On le voit encore dernièrement avec le Covid. Ça a eu un impact énorme sur notre déficit. Le Covid a créé plusieurs millions d'euros de coûts supplémentaires et les ressources publiques deviennent de plus en plus compliquées. Et donc, en parallèle, de l'autre côté, les défis de la chose publique sont de plus en plus importants et les habitants sont de plus en plus exigeants. Et donc, il faut toujours faire plus dans un contexte qui est de moins en moins facile et surtout sans augmenter les impôts, très important à Saint-Pierre. Et donc, voilà, c'est un défi de taille, mais ça nous pousse à être efficace. Donc voilà, on peut passer au-dessus.
Comme tu nous as expliqué plus tôt, tu travailles pour le moment au niveau local, mais est-ce que tu as des ambitions au niveau fédéral?
Mais en fait, moi je trouve que le niveau local est super enrichissant. Je trouve vraiment que c'est le plus beau niveau de pouvoir, parce que c'est le plus concret, c'est le plus proche des gens et des réalités. Mais en même temps, voilà, moi j'ai toujours suivi le cours de la vie. Elle m'a proposé un jour d'être échevin il y a 2 ans. J'ai saisi l'opportunité, et puis on verra bien de quoi l'avenir sera fait. Mais il y a quelque chose qui m'est très cher, c'est mon activité entrepreneuriale, qui fait que, en fait, voilà, j'ai une vraie expérience supplémentaire qui me donne une vraie valeur ajoutée pour ma commune et dans mon engagement public. Et donc ça, c'est vraiment important pour moi de le maintenir. Donc on verra bien, mais c'est vrai que je pense que, voilà, peu importe ce qu'on va me demander, ce sera important pour moi de garder cet engagement dans le monde entrepreneurial.
On parle donc peut-être à un futur Premier ministre, mais j'imagine qu'il faudra encore un peu attendre pour le savoir. Et sinon, justement, en parlant de ton projet entrepreneurial Sun for School, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'explications à ce propos et surtout comment tu fais pour gérer ces deux activités en même temps?
Donc j'ai créé Sun for School en fait il y a 3 ans. La volonté derrière le projet c'était d'accompagner les écoles dans leur transition énergétique en finançant et en installant des panneaux solaires, principalement dans des écoles bruxelloises, en sensibilisant en même temps les enfants au développement durable. Et en 3 ans, on a installé près de 40 000 panneaux, on a équipé une soixantaine d'écoles et des dizaines d'autres bâtiments, des hôpitaux, des entreprises, des centres commerciaux. Et en fait, ben, je trouve que c'est super important de combiner cette activité entrepreneuriale et mon activité politique. Je pense que c'est même indispensable parce que ça me permet surtout d'être indépendant financièrement de la politique et donc de prendre des décisions sans aucune pression d'être réélu ou parfois ce mot clientélisme de devoir voilà, séduire des gens pour être réélu. Voilà, demain, si je ne suis pas réélu, j'ai toujours mon activité professionnelle annexe et ça, c'est vraiment une force. Autre chose, c'est la méthodologie de travail, clairement beaucoup plus flexible et dynamique dans un environnement politique qui est là, plus lourd, plus difficile à faire bouger. Cette expérience entrepreneuriale me permet de faire des ponts entre les deux secteurs qui, je pense, ont énormément de choses à s'apporter mutuellement. Donc l'innovation et le dynamisme du secteur entrepreneurial, par exemple, est indispensable pour atteindre les objectifs, comme on l'a dit, hein, toujours plus ambitieux de mobilité, les objectifs climatiques ou les objectifs en termes de développement de la Smart City. Je pense vraiment que le public tout seul ne peut pas y arriver, en fait. Et donc, je fais mon petit maximum pour garder un mi-temps dans ces deux mondes et d'essayer de nourrir, du coup, le public de mon activité d'entrepreneur.
En tout cas, c'est vraiment top comme projet. J'ai une dernière question pour toi. On termine toujours nos podcasts par la même question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs pour leur future carrière?
Oui, je pense que si j'ai un conseil, c'est vraiment n'hésitez pas, puisque je pense qu'un engagement dans la vie locale est super enrichissant et un profil commercial a énormément à apporter dans le secteur. C'est mutuellement très enrichissant, tant pour l'homme, voilà, l'étudiant que vous êtes aujourd'hui, que pour les citoyens de la commune qui va potentiellement servir. Le politique qui fait carrière toute sa vie et qui reste politicien toute sa vie, je pense que cette période est vraiment révolue. Et je lisais une étude qui montrait que 3/4 des députés français, par exemple, n'avaient fait que de la politique dans leur vie. Je pense que ça, c'est vraiment dépassé. Ils sont déconnectés de la vie réelle, du monde de l'entreprise. En plus, avec le non-cumul maintenant des mandats publics, Ça fait de plus en plus sens de cumuler une activité privée et un engagement public. Je pense même que c'est l'avenir de la politique. Et cet avenir, c'est vraiment pouvoir passer d'un monde à l'autre, du monde privé au monde public, et d'être assez flexible. Et je pense que l'engagement local, c'est l'endroit clairement où c'est le plus facile de le faire, où votre action, mon action est la plus concrète, parce que c'est la plus terre à terre. Et donc, je pense que le conseil que je vous donnerais, c'est oser l'engagement local, oser l'engagement politique. Je pense que le monde politique, on a bien besoin de gens comme vous. Et voilà, n'hésitez pas à mettre ce background au service de l'engagement local et de l'engagement public.
Ok, merci beaucoup Alexandre, et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Best Regards.
Avec plaisir.
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Il nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine !